Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro et j'ai à mes côtés Julien. Bonjour Julien.
Salut, salut.
Et Max, salut Max.
Bonjour à tous.
Pour ceux qui ont écouté notre épisode Flash, vous le savez déjà, nous avons désormais deux formats d'émissions dans Bunko. Nous avons tout d'abord les épisodes Flash, qui sont des épisodes où nous revenons sur l'actualité du manga en France et ailleurs, et les épisodes Focus, qui sont des épisodes thématiques où nous traitons en détail d'un sujet donné. Pour ce premier épisode Focus de l'année 2022, nous allons aborder la trajectoire d'un éditeur indépendant, un éditeur qui, mine de rien, est présent dans le paysage éditorial français depuis maintenant 18 ans. Cet éditeur, c'est Le Lézard Noir. Dans notre épisode Histoire orale du manga en France partie 2, nous avions évoqué le fait qu'au début des années 2000, au sein du champ éditorial de manga en France, il y a une fraction d'acteurs qui émergent et qui vont se spécialiser dans la publication d'un manga de niche, un manga très éloigné de la production de masse, notamment des codes associés au shoujo, au shonen ou même au seinen. Et parmi ces acteurs, Le Lézard Noir, au fil des ans, est devenu sans doute la figure la plus emblématique de cette fraction d'éditeurs qui publie des mangas à la marge des grandes tendances de l'industrie.
Ah, clairement à la marge, hein, puisque personnellement, Le Lézard Noir, je l'ai connu 10 ans après sa création. C'est-à-dire que j'ai essayé de remonter dans les souvenirs et tout. Bon, en fait, je suis allé sur Manga Sanctuary, j'ai regardé mon historique d'achat pour savoir lequel Lézard Noir j'avais acheté en premier. Mais je me suis rendu compte qu'en 2013, mon premier Lézard Noir, c'était Gekiga Fanatics. Et puisque j'étais vraiment dans une période où j'explorais les petits catalogues, et j'étais tombé sur du Cornelius très certainement, sur du Tatsumi avec Une vie dans les marges. Et quand j'ai vu Gekiga Fanatics, puisque j'explorais les catalogues Gekiga, ben c'est là où j'ai découvert réellement le Lézard Noir, donc 10 ans après sa création quasiment. Et j'ai enchaîné avec Sex and Fury. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, puisque à partir de 2014, j'ai commencé à découvrir les Roguro avec du Maruo, avec Yume no Saku et Lunatic Lover. Et à partir de 2015, c'est là où j'ai commencé à acheter tout ce que les arts noirs produisaient, avec les Vagabonds de Tokyo, les Mutants Anako, etc. Enfin, tout ce qui sortait à ce moment-là, je ne vais pas faire la liste maintenant. Mais j'ai vraiment attendu le milieu des années 2010 pour connaître le Lézard Noir.
Et c'est bien la preuve, du coup, qu'il appartient à une fraction très particulière du champ éditorial qui ne touchait pas forcément le lectorat un petit peu plus mainstream auquel peut-être que tu appartenais encore un peu plus à cette époque-là, en fait. Puisque ça faisait 10 ans qu'il publiait des mangas et t'en avais pas vraiment entendu parler alors que t'étais déjà un lecteur assez assidu de mangas. Moi, c'était mon cas aussi. Hein. Le premier Lézard Noir que j'ai lu, c'était, je crois, en début 2015 avec Hero SF. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cet éditeur.
Et toi, Max ?
Moi, je l'ai découvert, en fait, entre guillemets, assez tôt, en 2010, je crois, avec...
Au Virgin Megastore ?
Non, pas au Virgin Megastore, chez Thomas, librairie BD16, il se reconnaîtra. Je l'ai découvert assez tôt, voilà, en 2010, avec le tome 2 du Vagabond de Tokyo.
T'avais pas envie d'acheter le tome 1 d'abord ?
Non, en fait, mon libraire ne l'avait pas.
Ok.
Donc, j'ai pris le 2. Que j'avais beaucoup apprécié. C'était un peu la période où je commençais à lâcher le manga, en fait. J'avais lu un peu trop de shonen et de seinen, et je commençais à en avoir un peu marre, et j'avais envie de m'intéresser un peu à autre chose. Et du coup, j'ai lu ce tome 2, mais j'ai pas cherché à creuser plus loin l'éditeur non plus, parce que c'est seulement en 2015 après, c'est ça, 2015, que je le retrouve, avec Shisa Kobe. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au catalogue. Et c'est aussi l'éditeur qui m'a un peu rabiboché avec le manga, puisque c'est grâce à Shisa Kobe en 2015 que je suis revenu dans le champ et que j'ai recommencé à lire des mangas.
C'est intéressant, puisqu'on a plus ou moins réellement développé, enfin exploré le catalogue Lézard Noir vers les années 2015.
Mais on le verra, hein. C'est aussi à ce moment-là que je pense qu'il y a une rupture aussi dans l'histoire du Lézard Noir. On va en parler... durant l'émission. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser à la trajectoire de cette maison d'édition. Comment est-ce que le Lézard Noir émerge ? Comment l'éditeur s'est façonné une place si singulière dans le champ éditorial français ? Comment est-ce que son catalogue s'est développé au fil des années ? Voici quelques-unes des questions auxquelles mes camarades et moi allons tenter d'apporter des réponses dans ce focus. On se lance, les gars ?
Ready. Allez, c'est parti.
Bongo !
Focus !
Focus !
Alors, je vous propose déjà d'aborder la naissance de cet éditeur. Et pour parler de la naissance du Lézard Noir, il faut parler de son fondateur, puisque au départ, c'est vraiment l'histoire d'un homme, d'une personne qui crée cette maison d'édition. Cette personne, c'est Stéphane Duval.
Alors effectivement, Stéphane Duval, qui était en fait à la base un disquaire jusqu'en 2005, où il devient ensuite directeur de la maison de l'architecture. Donc ce qui est intéressant avec ce personnage de Stéphane Duval, c'est que en étant un disquaire, ça reste une personne qui était hors du champ du manga. D'ailleurs, il se présente dans les interviews qu'on peut lire de lui comme un non-lecteur de ce médium.
Tout à fait, ouais. Je pense que c'est une caractéristique importante à retenir sur la fondation en fait du Lézard Noir, c'est qu'au départ c'est une personne qui n'est pas issue du monde du manga, qui n'en lit pas forcément. C'est pas quelqu'un qui a une culture manga mainstream, qui a grandi ou qui lit du shonen, du seinen.
La seule œuvre qui l'a marqué, c'est Akira.
Ouais.
Et depuis, il n'est pas revenu au manga.
Oui.
Ouais, tout à fait, ouais. Et on voit que c'est aussi assez caractéristique de sa trajectoire professionnelle, hein, parce que tu le disais, Max, il a été entre 2005 et 2018 le directeur de la maison d'architecture à Poitiers, alors qu'en fait, il n'a pas d'études spécialisées en architecture, il n'a pas une expertise là-dessus, c'est un outsider complet. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de caractéristique de sa carrière, c'est d'entrer dans des champs pour lesquels il n'est pas encore spécialiste et qu'il veut découvrir et dans lesquels il veut évoluer. Il l'a fait pour l'architecture, il le fait maintenant pour le manga depuis presque 20 ans. Et je pense que c'est aussi le fait d'être hors champ, de ne pas connaître les codes auxquels nous, on a été habitués en tant que lecteurs depuis notre plus jeune âge, qui fait qu'il va avoir un regard aussi très frais sur la production. Il ne va pas forcément avoir un œil formaté et il va proposer des choses.
C'est exactement ce qui fait sa force, je pense, justement, comme tu dis, parce que à contrario des grands éditeurs qui sont de grosses infrastructures, c'est vraiment des machines qui doivent avoir vraiment des titres très shonen, très mainstream pour toucher le plus grand nombre de publics. Lui, il vient avec un angle qui est plutôt différent, comme on va pouvoir le voir tout au long de ce numéro.
Et c'est d'ailleurs par le biais de cette passion pour la musique qu'il va en fait rentrer dans l'édition de manga, puisque au début, il découvre les pochettes d'albums réalisés par Suhiro Maruo. Et c'est en découvrant que Maruo illustre des pochettes depuis les années 80. Maruo, il a fait plusieurs dizaines de pochettes d'albums très underground de musique japonaise. Et c'est quand il découvre que Maruo fait des mangas, édite pas mal de livres au Japon et qu'ils ne sont pas disponibles en français, que ça lui donne l'envie de fonder sa propre maison d'édition, donc le Lézard Noir, et de publier Maruo.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là, je ne sais plus c'était dans quelle interview spécifiquement, mais il la qualifiera de laboratoire expérimental, un peu de publication avant-gardiste, mauvais genre, mais qui tourne surtout autour justement de Maruo.
Ça tourne autour de Maruo, ça tourne aussi autour, en quelque sorte, de l'underground japonais, de montrer un Japon qui est très éloigné du Japon de la culture de masse, et qui est donc très éloigné du manga, en fait. Parce que nous, on reçoit vraiment cette culture de masse qu'est le manga en France jusqu'ici, et lui, il va explorer tout un pan de la culture visuelle et BD japonaise complètement différente.
De toute manière, on voit bien que ce parti pris assez particulier de publier des œuvres, on va dire, généralement à la marge, ça se retrouve aussi dans son nom. Le Lézard Noir, ça ne vient pas de nulle part. C'est le titre d'un roman de Edogawa Rampo,
mm-hmm.
qui est un auteur assez connu, justement, d'Eroguro et de Polar Noir, un peu grand guignol au Japon. Et donc le nom Le Lézard Noir, comme je dis, est une référence directe à cet auteur.
En fait, c'est même il fait un doublé, parce que c'est une référence à Rampo dont il apprécie beaucoup l'œuvre, et ça fait aussi une référence indirecte à Mishima, à Yukio Mishima, puisque Le Lézard Noir, c'est aussi une pièce de théâtre de Mishima, adaptée justement de Rampo.
Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a des liens qui se font aussi, parce que on peut voir que Maruo a aussi beaucoup illustré Edogawa Rampo. D'ailleurs, Le Lézard Noir avait édité un artbook.
Ouais, y a vraiment un imaginaire assez cohérent au départ, hein. Rampo, Mishima, l'Eroguro, le grand guignol dont s'inspire Maruo, tout ça est très cohérent, dialogue, donc ça fait du sens en fait qu'il commence comme ça, en fait, qu'il commence avec les choses qui l'intéressent spécifiquement, et finalement on est assez éloigné du manga, parce qu'au début c'est pas son intention première que d'éditer du manga.
En fait, comme tu disais, c'est quand il a vu les pochettes de Maruo qui avait illustré des CD, il a décidé à partir de là de contacter en fait cet auteur, et en découvrant justement ses œuvres, son univers, c'est là qu'il a eu l'envie d'éditer ses livres. Et c'est ce déclic qui l'a poussé en fait à créer sa maison d'édition.
Exactement, il visite Maruo au Japon en 2003 par l'intermédiaire d'un galeriste de Maruo, et c'est à ce moment-là qu'il se dit bon, ok, il visite Maruo en 2003, en 2004, il lance le Lézard Noir.
Et justement, c'est ces premiers pas en 2003 qui vont donner la couleur du Lézard Noir pour les 2-3 premières années à venir, qui sera une forme de ce qu'on pourrait appeler japonisme et décadence.
C'est son slogan d'ailleurs.
C'est son slogan. C'est le slogan qu'il utilise au début, japonisme et décadence. Si on veut être un petit peu schématique, analytique, on pourrait dire, je trouve qu'il y a une première période du Lézard Noir, c'est les deux premières années, japonisme ou décadence, où il met en place un petit peu cette ambition éditoriale initiale qui est, au départ, d'éditer des artistes et des illustrateurs qui viennent de cette culture un petit peu underground japonaise. Donc on va avoir le premier livre qui est édité, qui est un livre de Maruo, un livre sur l'art du bain japonais. On va aussi avoir des titres qui sont très expérimentaux et pas forcément manga à proprement parler, comme par exemple Mutant Hanako de Makoto Haida.
J'aimerais juste revenir justement sur les deux premiers livres de Maruo, parce qu'il avait édité ça car il était en course avec IMHO. Comme il voulait éditer absolument du Maruo, il avait édité ces deux petits livres pour être le premier à éditer Maruo.
Ah ouais ?
Et oui, et ces deux livres, c'est pas du manga en fait, ce sont des petits livres au format carré où il y a simplement un texte et une illustration de Maruo à côté. Et exercice d'automne, c'est quelqu'un qui est en train de faire des échauffements, qui réfléchit à sa stratégie pour nettoyer son jardin. C'est des choses comme ça. L'art du bain japonais, c'est pareil, c'est des illustrations pour vous montrer comment on prend le bain japonais. Donc on est quand même sur du livre d'illustration, limite du livre jeunesse, mais pour un public adulte, sachant qu'il n'y a pas il n'y a rien en fait dedans, c'est vraiment des illustrations tout à fait classiques. C'est juste pour dire qu'il commence pas par du manga en fait, c'est ça que je voulais dire par ça.
Il commence pas par du manga, et même quand un de ses premiers titres, Mutant Hanako, ressemble à du manga, est-ce que c'est du manga traditionnel? Absolument pas.
Non, parce que lui-même d'ailleurs dit bien que au tout début, à ce moment-là, quand il publie Mutant Hanako et même Akino Kondo, il cherche plus à publier des artistes contemporains.
Exact.
Il ne les nomme pas mangaka quand il les présente.
Exactement. Alors, si on présente un petit peu rapidement qu'est-ce que Mutant Hanako, pour celles et ceux qui n'ont pas lu et qui ne le connaissent pas, c'est un ouvrage à deux entrées. Donc, quand vous prenez la partie lecture occidentale, dans le sens occidental, il y a une partie livre d'art où on présente l'artiste Makoto Haida. C'est un artiste contemporain qui produit sur plusieurs supports, aussi bien de la peinture, il fait de la vidéo, il fait aussi des installations. C'est un artiste très provocateur qui a un certain goût de l'absurde, du non-sens. Et il aime, comme il le rappelle justement dans cette partie de l'ouvrage, il aime cultiver une image d'artiste inculte, ce qui n'est pas. Hein. Il est diplômé des Beaux-Arts, c'est quelqu'un qui a une trajectoire tout à fait légitime en fait dans le monde de l'art. Mais il aime casser un petit peu les codes d'un art parfois un petit peu trop lisse. Et une de ses créations, c'est Mutant Hanako. À l'origine, c'est une exposition qui s'est tenue au Japon sous forme d'un panneau de 17 mètres de long, où il présente une bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée qui se rapproche beaucoup du style, on en avait parlé déjà dans Bunko, le style Eta Uma. On avait évoqué dans les épisodes sur les mangas du malaise, Yoshikazu Ebisu, bien Takashi Nemoto, qui sont des auteurs qui se sont fait connaître avec un manga qui est volontairement très mal dessiné, avec des apparences grotesques, très irrévérencieuses. Et Mutant Hanako s'inscrit complètement là-dedans. C'est un manga qui raconte une sorte de version alternative de la guerre du Pacifique, complètement outrancière, immorale. C'est très très régressif, c'est scato. Il y a une sorte d'anti-américanisme primaire aussi. L'idée, c'est pas d'avoir de message, c'est de faire des trucs les plus trash possibles, dans un dessin très très brouillon, qu'on pourrait presque qualifier d'enfantin en fait.
Si vous cherchez des images de Mutant Hanako, on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné ça, c'est en couleur, de colère en fait. Et pas du tout, puisque un enfant ne serait pas en capacité de dessiner un truc aussi détaillé. Mais ça fait à la fois enfantin, brouillon, mal dessiné, et c'est génial à lire.
C'est très drôle, c'est hyper hardcore. Il aurait eu sa place si on devait faire une partie 3 des mangas du malaise. C'est un manga très 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 malaisant.
Il était dans la pré-liste, mais il n'a pas été retenu pour la sélection.
C'est ça, on en avait parlé, et puis après on en a choisi 10 et on l'avait mis de côté, mais si vous voulez lire un truc malaisant, clairement Mutant Hanako est là. Et justement, moi c'était un des premiers titres du Lézard Noir que j'ai lu. J'avais acheté Hero SF, puis après je me suis dit, oh, tiens, cet éditeur est intéressant. Et j'étais assez choqué quand j'avais lu ça. J'avais jamais rien lu de tel. Et effectivement, je trouve que ça, c'était une bonne manière d'entrer. En tout cas, si tu veux dire que tu veux faire des choses différentes, hyper trash et qui ressemblent pas du tout à du manga, c'était une bonne entrée en la matière, je pense.
De toute manière, on voit qu'il poursuit dans cette voie, puisque Mutant Hanako était sorti en mai 2005. Et quelques mois après, en octobre 2005, il va sortir Izumi de Daisuke Ishiba. Alors, peut-être que certains de nos auditeurs savent qui est Daisuke Ishiba, puisque, pour rappel, Life of Namazuko était arrivé premier de notre classement des mangas du malaise. Enfin, voilà, tout ça pour dire que, au début, il poursuit vraiment dans cette voie d'essayer de publier des artistes contemporains.
Et il publie aussi, dès le départ, Akino Kondo, donc qui est une artiste aussi à cheval entre le manga et aussi une production plus liée à l'art contemporain.
D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des livres à deux entrées, et c'est important d'insister dessus, puisqu'il y avait une volonté d'offrir un côté histoire, un côté, on va dire, cahier critique qui présente l'œuvre. Et d'ailleurs, j'avais pu parler avec Stéphane Duval lors d'un Angoulême, et il me disait qu'il avait dû un peu arrêter ce format, enfin c'est ce que j'avais compris en tout cas, parce que c'était tellement inhabituel dans le champ du manga que les journalistes, il était arrivé d'avoir des journalistes qui ont lu le manga à l'envers. Parce qu'ils n'ont pas saisi, en fait, ce livre à double entrée, parce que la couverture est du côté du cahier critique, et non pas du côté de la BD. Donc ça brouille les pistes quand tu n'es pas habitué à ce genre d'ouvrage.
Tout à fait, c'est vrai que c'était assez particulier. Et il en a fait plusieurs, dont Aiko de Akino Kondo. Et donc ça, c'est l'ambition éditoriale initiale, je dirais les 2-3 premières années, 2004-2006, Japonisme et décadence, où il met en avant ce type d'artiste. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va mettre en avant Maruo, mais cette fois-ci le Maruo qui fait des mangas. Le premier Maruo qui sort, c'est Yume no Kusaku.
Et cette même année, il y a Yaemasho qui sort La jeune fille au camélia. Puisque pour l'anecdote, tous les deux avaient le titre. Ils avaient réussi à avoir la licence en même temps. Parce que La jeune fille au camélia a été éditée chez deux éditeurs différents au Japon. Et il a dû abandonner la licence parce que Benoît Moreur, qui est donc le responsable éditorial de Imo, le voulait tellement que du coup il y a laissé. Et c'est pour ça qu'il avait justement édité rapidement les deux petits livres qu'on a parlé juste avant. Mais il a édité le CD de Midori, donc Midori qui est La jeune fille au camélia, pour essayer d'avoir quelque chose quand même de cette œuvre.
Ouais. Et toi, ta rencontre avec Maruo, Julien, ça s'est passé comment? Est-ce que c'est ces titres-là que tu as découvert au départ?
Alors, à la base, Maruo, la première fois que je l'avais découvert, c'était justement, ben, je crois, vers 2014, on m'avait présenté Maruo, genre avec la chenille, et on m'avait dit, regarde ce truc, mais les arts noirs, ils publient que des trucs chelous comme ça, un peu déviants. Donc voilà, du coup, j'avais pas trop osé le lire, en mode, bon, on va me prendre pour un pervers, je sais pas trop. Et en fait, cette même année, je suis tombé sur Yume no Saku, et je l'ai acheté, et je l'ai lu, et c'est le premier titre que j'ai lu avec, après, Lunatic Clover. Et quand je l'ai lu, la première fois, je ne savais pas trop où me mettre, en fait. J'étais en mode, ce que j'ai lu, ça m'a plu, mais c'est tellement déviant que je ne sais pas si je suis normal à lire ça, ou est-ce que, non, tu as le droit de lire ça, tu sais, une sorte de jugement dessus, surtout le chapitre de la soupe au caca, qui est, je crois, un chapitre qui a failli me faire vomir la première fois, tellement qu'il était dégueulasse.
Alors moi, ce n'était pas du tout ce titre, mon premier Maruo, c'était La chenille, que j'ai lu en 2015, donc au moment où je découvre Le Lézard Noir et je commence à explorer le catalogue. Et on en avait déjà parlé dans les mangas du malaise, c'était quelque chose qui m'avait marqué, notamment la scène de la banane, qui est la meilleure scène de banane que j'ai vue de ma vie. Donc ouais, c'était un choc, en fait, je ne connaissais pas du tout les Roguro, j'étais complètement ignorant de ce courant, et c'était une sacrée découverte pour moi.
C'était très dérangeant.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment la première fois où j'étais vraiment mal à l'aise en train de lire un manga, quoi. Ça me changeait de mes Dragon Ball.
Et toi, Max, du coup?
Alors moi, je l'ai découvert avec La jeune fille au camélia, donc chez Yemacho, pas du tout Les Arts Noirs, mais quand même en 2015, donc vraiment à l'époque où je commençais à être un peu curieux, où j'ai lu Shisakobe au Les Arts Noirs, et j'étais un peu vraiment en recherche de titres qui allaient un peu plus loin que les titres que je lisais quand j'étais plus jeune, en fait. Et c'était une première lecture, c'était une première découverte, mais pourtant j'ai adoré dès cette première lecture, même encore aujourd'hui. C'est un de mes titres fétiches, en fait, La jeune fille au camélia. J'adore le personnage de Midori, qui est vraiment emblématique pour moi. Et c'est ce qui m'a après ensuite poussé à continuer à lire du Marot. Et c'est comme ça que j'ai un peu aussi rencontré Vampire, qui était déjà sorti à l'époque en 2006, mais je l'ai lu, en fait, je l'ai découvert en achetant la hardcover, parce que, en fait, à cette époque-là, là, ces dernières années, Duval a commencé à réimprimer, rééditer les Marot dans une nouvelle édition hardcover, et c'est comme ça que j'ai découvert Vampire. Vampire, faut savoir qu'au Japon, c'est une œuvre qui a une parution assez irrégulière. Le premier volume, il était sorti à la fin des années 90, il a été prépublié en 98-99, mais le tome 2, il est sorti seulement dans les années 2003-2004. En fait, c'est peut-être l'œuvre la plus récente de Marot qu'on va avoir au Lézard Noir. Puisque comme on en a souvent discuté en off, et peut-être que c'est bon de le rappeler aussi, depuis quelques temps, c'est Casterman, en fait, maintenant, qui édite Marot. C'est plus le Lézard Noir.
Les œuvres récentes, tu dis.
Exactement, ouais. Les œuvres récentes.
D'ailleurs, Vampire, t'avais tellement plu qu'il en a fait un long article.
J'ai fait un long article sur Vampire qu'on peut retrouver effectivement sur le blog de Ariane, Arnachronisme, où j'explique que l'œuvre est très importante pour la symbolique, toute la symbolique qui est véhiculée par l'image du vampire, puisque Marot reprend cette image qu'on le connaît très bien et la détourne complètement pour en faire un destin qui n'est pas très enviable en fait.
Voilà, donc on a cette première période, les débuts du Lézard Noir, japonisme et décadence entre 2004 et 2006, où il installe cette identité très forte. Et après, je crois qu'on peut dire qu'il y a une deuxième période, entre 2007 et 2014, où le Lézard Noir va développer un catalogue à trois entrées. Alors, la première entrée, c'est l'arrivée du Petit Lézard Noir, qui arrive en 2007. Le Petit Lézard Noir, c'est une collection, on peut l'appeler une collection, ou un label indépendant, destiné, comme son nom l'indique, aux petits. Donc ce sont des œuvres pour enfants. Un des premiers titres qu'il va publier, c'est Moumine. Et c'est d'ailleurs avec ce titre que l'éditeur obtient son premier prix, le prix du patrimoine au Festival international de la bande dessinée Angoulême en 2008. Donc pour Moumine, cette bande dessinée d'origine finlandaise, pour laquelle le Lézard Noir n'était pas le premier éditeur, hein, c'est une longue série, il y a une quarantaine de titres sortis à ce jour. Lézard Noir édite une collection particulière de Moumine dès 2007 dans cette collection qui s'appelle Le Petit Lézard Noir. Et ça, c'est une nouveauté par rapport aux trois premières années d'activité où il y avait vraiment une image plutôt dure d'un Japon décadent.
En fait, il a fait ce label puisqu'il avait été tombé sur des livres qu'il avait envie d'éditer, du moins des livres qu'il aurait eu envie de lire quand il était plus jeune, et c'est pour ça qu'il a fait ce label. Alors aujourd'hui, on va pas s'éterniser là-dessus, puisque ce label vit toujours, il y a déjà plusieurs dizaines de titres qui sont sortis, c'est une collection qui a l'air de fonctionner, et on va vraiment s'intéresser au Lézard Noir et pas au Petit Lézard. Mais sachez qu'en tout cas, ce label continue de vivre, et régulièrement, il y a des nouvelles sorties.
Tout à fait, donc c'est une des premières entrées du catalogue qui est développé dès 2007. Après, il y a une deuxième entrée qui est vraiment le manga, sans collection. Il n'y a pas de collection de manga au sein du Lézard Noir. C'est une particularité par rapport à certains éditeurs, notamment les éditeurs historiques. Et cet axe manga du Lézard Noir se développe davantage dès les années 2007, 2008, 2009, où on a à la fois un développement, par exemple, de l'Eroguro, où il y a une poursuite de la publication des œuvres de Marot avec la Chenille en 2010. Il y a aussi d'autres titres Eroguro qui sont publiés, comme par exemple La Demeure de la Chair, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans les mangas du malaise. Demeure de la Chair qui est édité en 2013. Donc il y a quelques titres comme ça d'Eroguro qui sont mis en avant par l'éditeur.
Ça fait, il y a même du Marot encore avec DDT ou New National Kid. Enfin, on sent qu'il continue à développer, bien sûr, son auteur, sauf qu'à un moment, il y a un problème.
Et ce problème, c'est que le Lézard Noir, en 2014, il se fait voler Marot par Saka Casterman, qui va publier L'Île Panorama.
Et depuis, ben, Marot, toutes les nouveautés de l'auteur, les nouveaux titres, sont automatiquement chez Casterman. Et Stéphane Duval devra se contenter des anciens titres qui n'ont pas encore été édités, puisqu'il n'y a pas d'exclusivité dessus.
Mmh. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en coulisses, mais on peut en tout cas prendre la température des relations qu'il y avait entre Marot et Stéphane Duval au moment de cette scission, en 2014, puisque si on lit l'interview qu'il y avait eu avec Bodoy, le site internet Bodoy, on apprend par exemple des choses assez particulières. La première, c'est qu'au moment, il y a le journaliste qui lui pose la question en lui disant que l'île Panorama serait peut-être l'œuvre dont Marot est le plus fier. L'île Panorama, c'est la première publication de Marot chez Saka Casterman. Et Stéphane Duval répond « C'est le seul que je n'ai pas lu ». C'est étrange tout de même. Et en fait, un peu plus loin dans cette interview, parce qu'ils sont, à ce moment-là, ils sont à Angoulême en 2014, le journaliste fait un peu de storytelling et je vais vous lire ce qu'il dit. « Coup de théâtre, nous nous retournons vers la foule et apercevons Suero Marot lui-même, immobile, devant le stand du Lézard Noir, et fixant Stéphane Duval du regard. Au cours d'une bulle de temps surréaliste, et avec l'effacement légendaire qui le caractérise, l'auteur salue brièvement son auditeur historique, lui remet un sac cadeau en papier, puis sans un mot, poursuit sa promenade en compagnie de son interprète mis à cause Locombe. Stéphane Duval, le sourire un peu là, dit « Voilà les rapports qu'on a, avec un auteur qu'on a publié pendant 10 ans. Bref, passons. » Alors, c'était en 2014. Maintenant, je ne sais pas si les relations sont à nouveau un peu plus apaisées en 2022.
On a pu les revoir ensemble entre-temps, donc je pense que de l'eau a coulé sous les ponts, mais c'est clair qu'à ce moment-là, en 2014, je pense que Stéphane Duval, il a le seum, tu vois.
Qui est compréhensible et justifié, hein.
Bah oui, c'est clair. Attends, il développe une maison d'édition par amour pour Marot. Je pense qu'il y a quand même cette idée de faire du long terme avec l'auteur. Nous-mêmes, on découvre Marot bien plus tard, en fait, quand il est déjà chez Casterman. C'est comme si tout ce travail un petit peu d'implémentation de l'auteur sur le territoire français avait été un petit peu défriché par le Lézard Noir, et puis il n'en récolte finalement pas forcément les bénéfices. Donc je comprends la position de l'éditeur.
Et le double seum pour Stéphane Duval, c'est que Marot est avec Miyakos Locombe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il a trouvé, qu'il lui a proposé de faire la traduction, qu'il lui a permis de se lancer et de gagner des prix aujourd'hui, et en fait il s'est fait voler à la fois sa traductrice, à la fois son auteur fétiche, et très certainement pour une histoire juste de cachet en fait, une histoire d'argent.
Après il faut un peu quand même tempérer nos propos, parce que bon, dans le cas de Miyakos Locombe, on voit très bien qu'elle œuvre dans la majorité des titres Lézard Noir encore aujourd'hui.
Non, mais de toute façon, c'est une traductrice, elle est en freelance. Donc
elle ne travaille pas que pour les armoires.
C'est ça, elle ne travaille pas que pour les armoires. Par contre, d'un point de vue strictement éditorial, c'est clair que c'est au sein du Lézard Noir qu'elle a pu se développer en tant que traductrice avec l'expérience qu'on lui connaît aujourd'hui et le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, parce que c'est un petit peu, je pense, si ce n'est pas là, l'une des traductrices les plus connues en France.
En tout cas, bon, cette histoire de Marot mise à part et le développement de l'héros gourou, dans un premier temps mis à part, on s'était aussi mis d'accord tous les trois pour parler d'un développement d'une identité de dénicheur underground.
Tout à fait, d'ailleurs, un des premiers titres qui va marquer ce changement, c'est par exemple Le Vagabond de Tokyo. Ce qui est assez drôle, c'est que Le Vagabond de Tokyo, lui, il le classe comme une œuvre très mainstream. Alors qu'en fait, si on fait lire ce titre à n'importe quel lecteur de manga, c'est absolument pas mainstream, c'est, c'est très borderline en fait ce manga.
D'ailleurs je vous invite à lire la critique sur Manga News du tome 1 du Vagabond de Tokyo, c'est très drôle et ça te donne aussi une sorte de température de comment un lectorat un petit peu plus mainstream pouvait percevoir l'arrivée du Vagabond de Tokyo. Donc la personne qui écrit la critique est complètement choquée par ce qu'elle lit, elle comprend pas qu'on puisse mettre en avant une œuvre avec un personnage voilà, aussi immoral et aussi peu vertueux, quoi. Et donc c'est assez drôle de voir que pour un public français, non, c'était pas très mainstream.
D'ailleurs, dans les interviews, Stéphane Duval, il dit que les fans du Lézard Noir à ce moment-là, en 2009, ils se sont demandé ce qu'il allait faire. Alors nous, on n'était pas encore là. Mais il faut dire qu'il est parti d'un truc très trash, avec un truc moins trash, mais qui reste toujours trash. Parce qu'il avait une volonté...
C'est juste que là, c'est marrant. C'est la première fois que c'est drôle, en fait. Parce qu'on rigole pas quand tu lis du Erogo. Enfin, Mutant Anaku un peu, mais autrement, c'était très sérieux, quoi. Les Demeures de la Chair, tu rigoles pas trop.
Ah, si.
Et là,
la truie, c'est drôle.
Pas la première fois.
Ah, ouais, je suis encore traumatisé de la truie, moi. L'histoire de la truie, je peux même pas la lire.
En tout cas, il avait cette volonté en 2009, justement, de faire moins d'Eroguro, et il voulait quelque chose qui fasse le lien entre le Black Lézard, comme il l'appelait, et le reste du catalogue. Et de trouver des titres un petit peu moins sulfureux, mais qui reste quand même dans ce qu'il aime. Et c'est ce qu'il a fait avec Le Vagabond de Tokyo. D'ailleurs, le premier volume, c'est un volume qui a été repris de l'édition japonaise. Et la suite, ce qu'on connaît, donc des volumes 2 à 5 et bientôt un sixième volume qui va arriver cette année, voire peut-être en 2023, c'est une curation française qu'il a fait avec Miyako Slocomb pour justement définir les histoires selon leur sensibilité chacun. Et le manga, en gros, c'est un manga qui faisait une quarantaine de tomes au Japon, et il n'y a pas un intérêt d'avoir l'intégralité, puisqu'il y avait beaucoup de chapitres qui se ressemblaient, hein, de lui-même, l'auteur l'avouait, de lui-même à la fin. Ça a été publié sur une vingtaine d'années, et Le Vagabond de Tokyo, en fait, nous raconte la vie de Yosho, c'est un gros loser de 22 ans, qui est pervers, qui vit dans une résidence dégueulasse, et avec le recul, en fait, ça fait penser à la résidence de Maison Ikkoku.
C'est Maison Ikkoku en marrant.
Exactement, en marrant mais en trash surtout. Moi j'aime beaucoup Maison Ikkoku.
Et non, moi aussi je rigole.
Et du coup c'est rigolo parce que quand on regarde aujourd'hui Maison Ikkoku, on voit que c'est quand même un truc de cassos. Et sauf que ce manga c'est vraiment le Tokyo Underground, c'est-à-dire que ce sont toutes les figures qui sont interdites, c'est-à-dire ça peut être le milieu de la nuit, les travestis, toutes les choses un peu, les clubs dégueulasses, les yakuza, etc. Et à chaque fois, ils se retrouvent dans des situations pas possibles. Ils se retrouvent toujours à vouloir essayer de choper une fille ou quelque chose. Et en fait, c'est lui qui se retrouve dans la ruelle à quatre pattes en train de se faire prendre, quoi. Et c'est hilarant, c'est très, très drôle. Mmh.
Moi, je trouve que c'est un titre qui est très Lézard Noir. Et si t'as jamais lu du Lézard Noir, moi, j'ai tendance à conseiller celui-ci, le premier volume du Vagabond de Tokyo, comme porte d'entrée vers un univers un petit peu différent du manga, et t'as déjà un petit peu l'ambiance à la fois trashouille, mais aussi marrante.
Ce qui était bien avec Vagabond de Tokyo, c'est que ça nous apportait une vision du Japon qui n'était pas édulcorée, qui montrait justement le Tokyo qu'on ne voit pas, le Tokyo sale, et ça changeait par rapport au paysage qu'on pouvait voir habituellement, où on était toujours dans des trucs lycéens ou un Japon toujours clean.
Et à ce moment-là, il ne se limite pas à dénicher des auteurs ou des œuvres underground japonaises, puisqu'il va aussi éditer un auteur américain qui s'appelle Lars Martinson, qui a fait une bande dessinée en partie autobiographique qui s'appelle Tonoharu. Alors, il n'y a qu'un volume qui est sorti à ce jour au Lézard Noir. C'est un volume double. En réalité, il y a le tome 1 et 2 de l'édition américaine. Il y a un volume 3, c'est une trilogie. Le volume 3 est sorti en 2016 aux États-Unis. Ce n'est pas encore sorti chez le Lézard Noir. J'espère que ça sortira un jour. C'est une histoire qui raconte l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Daniel Wells, qui est un enseignant américain de 25 ans qui arrive dans une petite ville de province japonaise qui est appelée Tonoharu. Et Wells va occuper un poste d'enseignant d'anglais dans une école locale. Alors au départ, il s'imagine vivre une expérience passionnante, faite de nouvelles amitiés, nouvelles rencontres, des échanges interculturels intenses. Mais très rapidement, il va se rendre compte qu'il va avoir beaucoup de mal à s'intégrer à la population locale. Et entre les relations difficiles avec ses collègues, la barrière de la langue et les différences culturelles, il va rapidement être désenchanté et se sentir isolé. Et nous, lecteurs, nous suivons l'expérience de cet occidental qui se sent perdu dans un Japon rural qu'il n'envisageait pas comme cela. C'est une super lecture. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée et c'était aussi intéressant d'avoir, pour une fois, un auteur occidental qui te parle d'un autre Japon avec un point de vue occidental sur l'immigration au Japon. Est-ce que vous l'avez lu ?
J'ai jamais eu l'occasion.
C'est vraiment bien. J'espère qu'on aura la suite un jour. Je ne sais pas si ça a marché, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas.
Alors, on parlait de décadence avec l'arrivée du Vagabond de Tokyo, un auteur qui n'est pas japonais, qui fait plutôt même US indépendant, comme tu as dit, c'est ça, hein, Pedro. Mais aussi, on va voir que vraiment dans ce développement d'identité un peu underground, si on peut dire, il va développer aussi un côté Tokyo de la nuit. Alors c'était déjà le cas avec le Vagabond de Tokyo, mais ça va être à nouveau le cas avec Jintaro, le Kaid de Shinjuku, de George Akiyama.
Qui est très cool.
Alors, tu l'as lu en plus il n'y a pas longtemps, je crois, ou tu l'as relu, non ? Tu ne l'avais pas montré lors d'un live ?
Je l'avais présenté à un live parce que j'avais une question justement dessus.
Et sauf erreur, c'est la seule œuvre de l'auteur traduite en française ?
Non, il y a aussi Ajin-san que Lézard Noir a édité. Donc, deux œuvres opposées. Une où on a les bas-fonds de Tokyo avec un yakuza hyper méchant, et l'autre où on a un petit bonhomme tout rond en forme de Bouddha, hyper gentil et bienveillant.
Ouais, tout à fait.
Là, on est plus dans le côté un peu feel good, c'est ça ?
Exactement. Deux très bonnes œuvres.
Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à explorer un catalogue vintage un peu autre que Maruo ou l'Eroguro, puisqu'il va sortir Les Femmes du Zodiac, de Miyako Maki, qui est une des rares autrices à ce moment-là dans le catalogue du Lézard Noir, puisque avant Miyako Maki, on n'avait que Akino Kondo, sauf erreur. Alors Miyako Maki, elle est parfois présentée comme étant une des premières autrices de Gekiga. Elle a commencé sa carrière dans les années 60 en faisant des œuvres destinées à un jeune public. Après, elle va s'orienter plutôt vers des créations pour un public un petit peu plus mature. Et elle va faire notamment les histoires qui sont présentes dans cette collection de volumes qui s'appelle Les Femmes du Zodiac, qui sont des portraits de personnages féminins à différentes périodes historiques. Et le concept, c'est que l'autrice, elle va retracer le parcours de femmes dont la personnalité est caractérisée par un signe astrologique. Donc il y a aussi voilà, cette volonté d'explorer des récits un petit peu différents, avec une sensibilité aussi un petit peu différente.
Tout comme du manga d'auteur, hein, notamment, il a fait des œuvres sur Mabui et Soldats de Sable qui parlent de la guerre, d'Okinawa, etc. On voit qu'il est en train de diversifier son catalogue, mais toujours, comme on dit, de ce dénicheur d'underground, avec des titres qui n'existent pas sur le marché, avec un segment que quasiment aucun éditeur explore, à part lui et MHO.
Et alors en plus de ça, quasiment en parallèle, vers 2012, il va développer aussi toute une gamme de hardcover. C'est un moment qui est un peu étrange, parce que le marché, il n'est pas vraiment encore habitué à du hardcover qui coûte plus de 20 euros.
C'est énorme, 20 euros pour un lecteur de manga. C'est un frein à l'achat qui n'est pas négligeable, mais il prend le pari de faire du hardcover.
Et moi, je pense que ça, c'est un signe qui montre qu'il cherche encore davantage à attirer un public dans un marché de niche, une fraction très particulière du champ de l'édition, pour un public d'adultes qui sont prêts à dépenser un peu plus d'argent pour leur manga que les habituels 7-8 euros, puisque là, parfois, on est sur du 30 euros pour certains volumes. Sauf erreur, je crois que, par exemple, Boten Taro, c'était une anthologie à 30 euros, non ?
Et d'ailleurs, concernant Boten Taro, on peut voir que le Lézard Noir, en fait, se met à faire de la création maison de contenu éditorial, comme cette anthologie.
Et effectivement, on va retrouver ce côté hybride pour lequel il avait beaucoup d'affection au début de sa maison d'édition, puisqu'on va retrouver tout un cahier critique qui présente l'homme, sa carrière personnelle, jusqu'à proposer une sélection d'histoires à l'intérieur sur différentes thématiques qu'il a pu aborder, de l'horreur, de la guerre, etc. Sachant que sa partie la plus marquante, c'est ce côté Sex and Fury, où c'est des nanas yakuza badass qui vont se défendre en cas de problème.
C'est vrai que c'est un livre assez hybride parce qu'on va aussi avoir des parties un petit peu artbook avec des illustrations en couleur qu'il a pu faire. Il y a une partie même tatouage, puisque Boten Taro était également tatoueur et on a comme ça quelques illustrations du travail qu'il a pu faire sur certains corps. Donc effectivement, c'était aussi quelque chose de nouveau à cette époque d'avoir voilà, un travail éditorial comme ça qui est fait dans un livre couverture en dur vendu 30 euros.
D'ailleurs, le livre est excellent et même le... On sent que la mentalité de Boten Taro, c'est quelque chose qui plaît à Stéphane Duval, puisqu'il y avait une phrase pendant qu'il avait dit « De mon temps, les éditeurs étaient des samouraïs, aujourd'hui, ce sont les employés de bureau. » Ce genre de punchline, tu vois, très subversive, en mode...
Je savais pas ça.
Voilà, et ça, c'est Boten Taro hein, qui dit ça. Hein.
Ouais, ok. Très bien, alors ça, c'était pour la seconde entrée, et il y a une troisième entrée qu'il développe pendant ces années-là, entre 2007 et 2014. C'est une entrée plutôt liée à l'art et à l'architecture, donc il va développer des livres sur la culture japonaise, notamment sur l'art japonais, je pense à des livres comme par exemple La Nouvelle Garde de l'art contemporain japonais, un livre par Sylvie Cavalheiro, qui ne traite pas du tout de manga en l'occurrence, mais qui essaye de dresser un petit panorama de quelques artistes issus de la scène art contemporain japonaise. Il va aussi éditer pas mal de livres sur l'architecture. D'ailleurs, on voit à ce moment-là que Stéphane Duval allie son métier de l'époque, qui est donc d'être directeur de la maison d'architecture à Poitiers, avec son second métier, le métier qu'il fait après son job principal, qui est le métier d'éditeur, où il va publier des livres spécifiquement sur l'architecture japonaise. Il va publier notamment des bouquins sur le mouvement métaboliste au Japon, donc un mouvement architectural. Il va publier des livres comme Mangapolis. Donc il s'agit d'un bel ouvrage collectif qui explore la représentation des villes japonaises dans le manga. Il y a donc un développement d'un catalogue aussi sur l'architecture qui se fait pendant plusieurs années en parallèle au manga et aux livres pour enfants. Donc voilà, on a cette seconde période entre 2007 et 2014 où le Lézard Noir développe ce catalogue à trois entrées. On peut dire que c'est un catalogue encore qui ressemble beaucoup au goût du fondateur de la maison d'édition, de Stéphane Duval. Et on pense qu'il y a, alors pas forcément une rupture, mais un changement de cap dès 2015, avec un catalogue qui va encore davantage s'ouvrir vers d'autres types d'auteurs. Et c'est aussi à ce moment-là, dès 2015, qu'on va avoir une reconnaissance à la fois du public, mais aussi une reconnaissance un petit peu plus institutionnelle du travail réalisé par le Lézard Noir.
D'ailleurs, dans cette évolution, on va pouvoir voir deux directions, une qui est dans la continuité et une qui va s'ouvrir vers d'autres types de mangas. Déjà, dans la continuité, on va retrouver des œuvres qui sont vintage, notamment avec Mon Village, Mirage d'été. On va retrouver l'anthologie AX ou Les Fleurs du Mal. Il va éditer du Kamimura avec l'accord de Kana, puisque c'est une sortie qui était faite en accord avec eux. Et aussi du Ishinomori avec Eros XSF.
Et donc ça, ce que tu dis, c'est que finalement, il continue à développer cette image un petit peu vintage, slash patrimonial, slash décadent, qui s'inscrit un petit peu dans la logique de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant.
C'est ça, parce que les œuvres citées au-dessus restent des œuvres soit grivoises, soit déviantes, soit qui sont alternatives. Donc ça reste pour quand même un public de niche. C'est pas du vintage ou du patrimonial qui est accessible à tout le monde.
Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, en 2015, que dans le catalogue vintage, il y a une nouvelle grande entrée, c'est l'arrivée de Kazuo Umeza.
Qui est en plus la première collection officielle au Lézard Noir.
C'est une sorte de collection qui ne dit pas son nom, en réalité. Parce qu'elle n'est pas identifiée comme une collection à part entière, elle n'est pas labellisée comme une collection, mais de par la charte graphique, on comprend bien qu'il s'agit de la collection de Kazuo Umeza.
C'est quand même une mise en valeur d'un auteur et c'est fait de manière très spécifique, contrairement à Maruo, qui n'a pas une charte graphique personnalisée.
Tout à fait.
En plus, cette charte graphique, elle est spécifique à la France, non ?
Oui, elle est spécifique à la France. D'ailleurs, il semblerait que c'est une demande directe de l'auteur ou des ayants droit, en tout cas.
En tout cas, ça fait classe.
On peut peut-être préciser quelle est la spécificité, justement, de cette charte graphique. C'est qu'on a le dos du manga, où il y a des rayures blanches et rouges qui sont typiques de ces rayures de l'imagerie développée par Kazuo Umeza.
Du coup, il remet aussi Umeza à jour, qui avait été un peu oublié par Glénat, avec des choix de publication au format Bunko qui n'a pas aidé l'auteur à s'implémenter en France. Et là, on revient dans un format moyen, un peu plus quali, et qui, justement, valorise bien plus l'auteur que ce qui avait été fait dans le passé.
Alors en plus, concernant la collection Umeza, c'est assez spécifique parce qu'il a accès à tous les titres issus de la Umeza Perfection. Donc c'est une collection d'une vingtaine de volumes qui regroupe plusieurs séries différentes. Le Lézard Noir a décidé en 2015 de commencer en publiant trois one-shots. Le premier, c'était La Maison aux Insectes, qui a été suivi du Vœu Maudit, et ensuite La Femme Serpent, excellent shoujo d'horreur. Et ensuite, il décide de publier la série longue qui est dans la Umeza Perfection, qui est Je suis Shingo. Et Je suis Shingo, c'est vraiment si ce n'est le chef-d'œuvre de Umeza, qui est paru dans les années 80 au Japon. Si vous ne l'avez pas lu encore, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, parce que c'est une surprise qu'il faut que vous gardiez. En fait, c'est une œuvre où les thématiques évoquées s'ancrent dans vraiment dans les frayeurs adultes de l'époque. Il y a toute une paranoïa autour de l'ennemi inconnu avec la guerre froide. Il y a aussi la peur de l'automatisation à venir du secteur de l'industrie, qui est aussi une peur de la technologie et un fantasme assez malsain autour de la robotique. Et en fait, au milieu de ça, on a deux enfants qui, au début, sont innocents et qui sont liés par l'amour. Je suis Shingo, ça tourne beaucoup autour de l'aliénation des angoisses adultes et l'impact que ça peut avoir sur le psychisme des enfants. Et il y a toute une réflexion en sous-texte aussi autour de l'impact d'un capitalisme tout-puissant sur le psychisme des générations à venir. C'est vraiment une lecture passionnante que je conseille à tout le monde, qui est très riche. Et je salue en tout cas le flair de Duval pour la publication de cette œuvre. On rappelle que c'est le prix du patrimoine à Angoulême en 2018.
D'ailleurs, on va vous renvoyer vers notre épisode Flash, puisqu'on parle justement de la suite de Je suis Shingo, une suite un peu particulière. Et on a fait un long sujet sur le retour de Umeza. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, ben, n'hésitez pas à y aller.
Merci Julien. Donc nous sommes en 2015. Il y a une poursuite de ce catalogue un petit peu historique, de cette identité historique vintage patrimoniale, mais il y a aussi l'idée de s'ouvrir vers d'autres types de mangas pour casser un petit peu l'image mauvais genre qu'avait le Lézard Noir jusqu'ici. Et je pense qu'un des titres phares qui va vraiment propulser le Lézard Noir et le faire connaître au-delà d'un petit public de niche, c'est Shisakobe, un titre de Minetaro Mochizuki. Alors Minetaro Mochizuki, on le connaissait déjà en France. Il avait déjà été édité par Glénat. Il a déjà été aussi édité par Pika avec Dragonhead.
Même Manga Player.
Manga Player, s'il y avait quoi? Ah oui, c'est juste, oui. Et effectivement, la première édition, t'as tout à fait raison. Dragonhead, les 36 000 covers de Dragonhead. Et Shisakobe, c'est une œuvre très particulière puisqu'elle nous présente un Minetaro Mochizuki dont on n'avait pas l'habitude de voir, puisque c'est une œuvre qui marque un tournant graphique dans la carrière de l'auteur. On a une ligne très claire, un dessin très épuré, dénoué de superflu, il n'y a pas de trame. C'est aussi un manga très subtil qui joue notamment sur les non-dits, sur les silences qui viennent constamment ponctuer un petit peu le rythme narratif très lent et délicat du manga. Et c'est un type d'œuvre auquel on n'avait pas du tout l'habitude de lire quand on connaissait le catalogue du Lézard Noir. Donc ça marque, je pense, vraiment une rupture avec ce qui avait été publié avant. C'est un manga assez remarquable et qui a été assez remarqué aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé dans la presse généraliste. Lézard Noir sort un petit peu du ghetto éditorial et va intéresser un public, notamment un public lecteur de bande dessinée. C'est un titre qui va être nommé deux fois à Angoulême en 2006-2017. Il remporte en 2017 le prix de la meilleure série. Il remporte aussi en 2016 le prix ACBD Asie. Donc c'est un début d'une série, en fait, qui continue de prix que va obtenir Le Lézard Noir pour une bande dessinée japonaise un petit peu différente. Et Shisakobe devient quelque part une sorte de porte-étendard de cette bande dessinée alternative proposée par Le Lézard Noir, autre que la bande dessinée du type Eroguro de Maruo des 10 premières années d'activité de la maison d'édition, je pense.
Et c'est important de rajouter aussi que Le Lézard Noir ne se prend pas pour une maison d'édition de manga. Et d'ailleurs, quand on va à Angoulême, il est dans les éditeurs indépendants alternatifs et il n'est pas dans le pavillon manga. Puisque pour lui, son public, c'est un public BD. Et il ne se voit pas du tout aller à des conventions comme la Japan Expo parce que c'est pas le public qui vise aujourd'hui. Ça vient conforter ses choix éditoriaux.
Et cet essai avec Shisakobe, c'est un essai qui s'avère concluant et après qui va être en quelque sorte reproduit avec des nouvelles signatures, l'arrivée d'une nouvelle vague de mangas d'auteurs comme Shinzo Keigo, avec au départ Tokyo Alien Bros en 2017, puis après on a eu à peu près toutes les œuvres de cet auteur-là. On a aussi le pote de Shinzo Keigo qui s'appelle Tsushika Nishimura, qui arrive en 2019 avec Heisban.
Au revoir Mina en 2021.
Exactement, au revoir Mina aussi en 2021. On a le développement comme ça d'une identité d'un manga adulte différent, un petit peu plus expérimental, qui essaye d'aller vers une autre direction.
Mais aussi, au-delà de ces auteurs un peu nouvelle vague, que sont Shinzo Keigo et Tsushika Nishimura, il y a aussi Eldo Yoshimitsu qui arrive dans le catalogue du Lézard Noir, avec Ryuko en deux volumes, qui à la base est une œuvre auto-éditée, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas tant l'œuvre en elle-même qui est intéressante, c'est surtout la relation qu'il y a entre Stéphane Duval et Eldo Yoshimitsu, puisque on suppose en tout cas que c'est le Lézard Noir directement qui gère les droits de Ryuko pour les revendre dans différents pays du monde. Et on peut voir par exemple avec Gamma Draconis, il a c'est un peu une œuvre de commande de la part du Lézard Noir.
Oui, c'est une création originale commandée par le Lézard Noir à l'auteur, tout à fait.
C'est qu'était une de ses volontés d'être l'éditeur, comme il appelle, le complet.
Ouais, c'est-à-dire de pas juste traduire des œuvres japonaises, mais d'être également à l'origine d'un processus complet de production d'une bande dessinée.
D'être acteur au final du marché.
Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va s'intéresser à des titres un petit peu plus légers, comme par exemple La Cantine de Minuit, qui est sans doute le best-seller du catalogue du Lézard Noir. Il a également, je pense, aussi bénéficié de la série Netflix. C'est aussi un titre qui a eu deux sélections à Angoulême et un prix ACBD Asie, donc ce qui n'est pas rien. La Cantine de Minuit, c'est la première œuvre dans le catalogue du Lézard Noir de Yaro Abe. Il y en aura plusieurs par la suite. Et c'est donc, ce sont des petites histoires qui se passent dans une petite gargote à Shinjuku qui accueille de minuit à 7h du matin les noctambules du quartier. Et donc dans chaque épisode de la cantine de minuit, on voit des clients qui discutent entre eux et qui se font servir à manger. Et le principe de la cantine de minuit, c'est aussi qu'il n'y a pas de carte, puisque les clients mangent ce qu'il y a sur place ce jour-là, ce qu'il a en stock. Et donc le cuisinier fait des petits plats avec ce qu'il a à disposition. Et donc ce sont des petites histoires de quartier avec des personnages récurrents qui parfois partent pendant un moment, qui reviennent. Et donc on apprend aussi à les connaître.
C'est des petites chroniques sociales, autoconclusives en fait.
Tout à fait.
Et en fait, il faut aussi souligner qu'en 2018, il fait revenir une autrice que la France avait connue en 2011 avec Princess Jellyfish chez Delcourt Akata. C'est Akiko Higashimura avec Le Tigre des Neiges, qui d'ailleurs va être récompensé en 2020 avec le prix Fauve Jeune Adulte.
Il n'a plus de place sur la cheminée là. Hein.
Non, il n'y a plus de...
Ouais, vous comprenez quand on dit qu'il y a un tournant en 2015. Là, il y a un début d'enchaînement de prix qui se met en place.
Effectivement. Et c'est surtout qu'en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'arrivée de cette autrice signe un peu le début de la féminisation du catalogue du Lézard Noir.
Tout à fait, puisque c'est vrai qu'avant l'arrivée de Akiko Higashimura, le catalogue du Lézard Noir, ça restait un catalogue très masculin. On avait, on l'a dit, Miyako Maki avec Les Femmes du Zodiac. On a aussi eu Akino Kondo, mais jusqu'ici, c'est vrai que la plupart des œuvres, non seulement étaient produites, créées par des mangaka hommes, mais c'était aussi un type de manga destiné à un public très masculin, très hétéro, même si on sait qu'il y a un public féminin qui lit les Roguro, mais je pense pas qu'il soit majoritaire. Et c'est vrai que là, on a le début d'un développement d'un catalogue d'autrices, donc il y a une féminisation du catalogue du Lézard Noir avec Akiko Higashimura, mais on a eu après pas mal d'autrices qui sont arrivées. On a notamment eu récemment Haruna Lemon avec l'excellent Daru-chan. Nous avons eu par exemple Ayako Noda avec au départ Incandescence et puis maintenant récemment la nouvelle série de l'autrice
Double.
Double, exactement. On a aussi toujours en cours de parution Haruko Kumota, l'autrice de Rakugo à la vie, à la mort. On a eu aussi une des meilleures œuvres de 2019 ou 2020, Le Monde selon Setchan de Tomoko Oshima, je ne me souviens plus.
2020
peut-être mon titre préféré de cette année-là, quoi. Le Monde selon Setchan, magnifique titre de Tomoko Oshima. Il y a eu aussi Yukiko Goto avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari. On a eu l'artbook de Little Thunder. On a cette année qui sort tout prochainement Seiko Irisawa avec un one-shot, La boîte lumineuse.
Une autrice issue du Flowers.
Issue du magazine de prépublication Flowers, exactement. Il y a clairement une volonté depuis quelques années d'avoir une féminisation du catalogue, d'attirer un public qui lit, alors pas forcément du shoujo, mais qui va lire peut-être plus du josei, un public de lectrices jeunes adultes qui n'était pas forcément au départ peut-être le public cible du catalogue du Lézard Noir, et les vieux lecteurs du Lézard Noir qui peut-être ne lisaient pas non plus beaucoup d'autrices. Je trouve ça intéressant de voir cette sorte de point de convergence comme ça du public autour de ces nouvelles autrices qui sont mises en avant par le Lézard Noir.
Effectivement, il y a une ouverture vers une sorte de mixité du public et de toucher un public peut-être un peu plus jeune que le public adulte qui est touché au début, puisqu'il y a un point qui est important qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi la politique tarifaire du Lézard Noir, puisqu'on avait déjà mentionné que les hardcovers coûtaient entre 25-30 euros. Les livres classiques, on ne l'avait pas mentionné, mais on était plus aux alentours de 20 euros, ce qui déjà était un budget assez important. Mais tous ces livres que le Lézard Noir édite, il ne fait pas de petits formats, il ne fait que des formats moyens. Et le prix d'entrée dans le Lézard Noir, c'est je crois 11 euros.
11 euros, oui.
Et généralement, après, ça peut aller à 13, voire 15, 18 euros, selon la pagination ou selon la catégorie, si c'est du patrimonial ou non.
Bah même 21, voire 23 euros hein, pour Je suis Shingo.
Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que, par exemple, demander à des lecteurs de manga qui ont l'habitude de payer leur manga 7 euros, 8 euros maximum, de passer sur 11 euros pour une pagination identique, même si le format change, c'était aussi un pari du Lézard Noir et un pari qui a fonctionné.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette arrivée de la féminisation du catalogue, ça correspond aussi, et d'une manière générale aussi, cette ouverture vers d'autres types d'auteurs et d'œuvres manga, ça correspond également au moment où le fondateur du Lézard Noir, Stéphane Duval, se lance 100% en indépendant. Car comme on l'avait dit jusqu'à maintenant, il avait un poste de directeur de la maison d'architecture à Poitiers. C'est un poste qu'il occupe jusqu'en 2018. Et à partir de là, bah, il décide de mettre un petit peu l'accélérateur ou le focus sur le lézard noir et d'être à fond dans la maison d'édition, de développer le catalogue. Et c'est aussi ça, en fait. C'est aussi l'envie de faire grandir l'entreprise, d'avoir un catalogue plus volumineux, et donc il a besoin aussi d'augmenter les volumes de vente de sa maison d'édition pour pouvoir faire tourner sa structure avec en tout cas un employé, voire plus maintenant à plein temps.
Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que bon, il a eu du flair avec Akiko Higashimura en la faisant revenir en France, mais à côté de ça, en fait, on peut voir qu'il avance pas non plus vraiment vers l'inconnu, puisque il prend ses autrices qui sont un peu en réseau. Par exemple, Lemona Haruna, l'autrice de Daru-chan, si on lit trait pour trait, qui a été publié chez Akata, qui est un peu une œuvre autobiographique d'Akiko Higashimura, on apprend qu'elles se connaissent et qu'elles sont même très proches. Donc, on voit qu'il pérennise ces autrices-là, puisque Akiko Higashimura, en plus, après, il a publié Tokyo Tararepa Girls, mais après, il regarde aussi du côté des autrices qui sont proches de cette autrice-là, j'ai l'impression.
Tout à fait, je pense. C'est déjà le cas avec Tsushika Nishimura, qui était proche de Shinzo Kaigo. Je pense que c'est effectivement une stratégie adoptée par la maison d'édition.
C'est quelqu'un qui travaille les relations avec ses auteurs et qui, justement, essaye de trouver des sensibilités identiques. Et c'est un travail voilà, qui se ressent, en tout cas, sur la diversité de ce que propose aujourd'hui le Lézard Noir à son catalogue. Pour revenir, justement, sur les volumes de vente, effectivement, en 2018, quand il prend son indépendance, quand on regarde un petit peu ses graphiques en termes de sorties, on sent clairement qu'il y a une très, très grosse accélération ces dernières années. C'est-à-dire que avant 2019, donc, on dépasse pas, on était en moyenne à une dizaine de volumes. Une dizaine de volumes par an, alors que voilà, on n'est pas les gros éditeurs qui en sortent 10 par mois. Hein. Donc ça reste à peine un volume par mois. En 2018, il atteint à peine les 13. Et en 2019, de suite, il passe à 29 sorties. Donc il multiplie par 3 le nombre de sorties. En 2020, il en fait 21, sachant qu'en 2020, c'est là où la pandémie commence. Et en 2021, il en sort 27. Et cette année, à l'heure où on enregistre, il en a déjà sorti une bonne dizaine. Donc on sent clairement une nette accélération du nombre de sorties, mais sans pour autant baisser la qualité du catalogue. C'est juste qu'aujourd'hui, il a un catalogue plus diversifié, ce qui fait que le fan d'avant peut être moins se retrouver dans le catalogue aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'il va lire des mauvaises œuvres.
Et il y a aussi cette logique un petit peu en série qu'il avait moins avant. Et maintenant, il y a des titres qui sont, sans être des séries très longues, il y a cette logique, de la série de 5, 6 tomes, parfois 10 tomes, et ça fait aussi rapidement du volume. Donc voilà pour cette période qui commence en 2015, où il y a donc cette ouverture du catalogue du Lézard Noir, avec une accélération du rythme de publication, du volume d'œuvres qui sont publiées. Finalement, peut-être pour conclure, les gars, est-ce qu'on pourrait se questionner sur qu'est-ce qui caractérise le Lézard Noir ? Qu'est-ce qui fait que le Lézard Noir est peut-être un éditeur identifiable facilement par rapport à d'autres ? Est-ce qu'on arrive à mettre en avant certains aspects ?
Alors tout d'abord, je pense qu'on peut dire, de la part du Lézard Noir, qu'il y a un certain sens de la curation qui est fait chez cet éditeur. D'une part, pour sa capacité à trouver des œuvres plutôt originales. Comme on l'a dit en tout début de podcast, Stéphane Duval, c'est une personne qui est extérieure au champ du manga, et donc il va pas forcément se soucier de plaire à un public qui est conditionné. Lui, il se place dans une perspective qui est différente. Comme Julien aussi l'avait mentionné plus tôt, au festival d'Angoulême, il est pas avec les éditeurs de manga, il est pas dans la section Manga City, il est dans la section Nouveau Monde, c'est ça ?
Il a pas envie de se mettre des chaînes, en fait, d'un marché qui est très formaté, en fait.
Exactement. Au-delà de cette capacité à trouver des œuvres originales, on peut dire qu'il a une capacité à comprendre le marché. Par exemple, quand on parlait de féminisation de son catalogue, on peut dire qu'il perçoit aussi certaines lacunes qu'il y a dans le champ du manga, et à travers cette féminisation du catalogue, il y a quand même une mise en avant, une représentation des autrices contemporaines pour un public féminin adulte.
Ouais, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il fallait répondre à une demande. En tout cas, pour celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a, si tu veux, une saturation d'une partie du public féminin qui se sont pas représentés par certains éditeurs à juste titre, je pense, y compris au sein du Lézard Noir, en fait, où il n'y avait pas de représentation féminine jusqu'à très récemment, et je pense qu'effectivement il a su capter ça et corriger cette faille dans son catalogue, ce manque évident dans le catalogue.
Et une des dernières choses qu'on peut dire vis-à-vis de cette perception du marché et ce sens de voir les choses un peu en amont, par exemple, en fait, lui, il a déjà commencé à mettre le nom des traducteurs avant que ce soit une mode, entre guillemets. Et il n'est pas là à faire des tweets dessus. Voilà, il a juste commencé à les mettre dans le silence le plus complet, mais on peut remarquer qu'à chaque fois maintenant, vous prenez votre tome, le nom est là.
C'est vrai qu'il n'en a jamais fait des caisses alors qu'il le fait depuis un certain moment.
Alors, j'avais regardé, je crois que c'est depuis la sortie de Daru-chan.
D'accord.
Qui était en
mars 2021.
Ok.
Février 2021, pardon.
Ok.
Il y a un autre point aussi, c'est le capital sympathie de la maison d'édition ou de Stéphane Duval. Déjà, il y a une mise en avant du travail de la maison d'édition plutôt qu'essayer de faire passer ça par une personne. Et surtout, il y a ce côté où ce sont les gens qui parlent du lézard noir. Donc, il n'y a pas une mise en avant particulière, ce sont les autres qui mettent en avant le lézard noir. Donc, il y a une aura de capital sympathie qui est important. On ne voit jamais le lézard noir se vanter. Ce sont les autres qui clame ses qualités, en fait.
C'est vrai qu'il y a une manière de parler aussi sur les réseaux sociaux qui est peut-être un peu plus authentique. Surtout si on la compare aux gros éditeurs que sont par exemple Glénat ou Cazet, qui sont des acteurs qui ont une communication qui est très polissée, qui est très vérifiée, étudiée. Et donc, ça va être très commercial dans la manière de communiquer. Alors que si tu regardes, moi, le Lézard Noir, c'est le seul éditeur que je connais qui va, par exemple, parfois retweeter des critiques négatives. Parfois, il y a des critiques qui sont même pas fondamentalement négatives, mais qui vont être un petit peu contrastées sur un titre. Et il va retweeter le truc, en fait. Et dire, informez-vous sur ce point de vue, sur tel et tel manga que j'ai publié. Et ça, c'est quelque chose, jamais tu verras ça chez un gros éditeur. Ils vont jamais faire de la promo pour un Instagrammeur, un YouTubeur, un article critique qui serait un tant soit peu négatif sur une œuvre publiée, quoi.
C'est-à-dire qu'il prend pas son public pour des idiots qui doivent acheter sans réfléchir, en fait. Il laisse justement en disant, il y a des gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui ont aimé, par rapport à vos goûts, faites votre avis.
D'ailleurs, en parlant de communication, il y a un fait suffisamment rare dans le monde éditorial français et qui mérite d'être mentionné, c'est que lorsque le Lézard Noir édite Tokyo Taraba Girls de Akiko Higashimura, ils font un partenariat avec Akata qui au même moment édite Trait pour Trait de la même autrice. Et donc, plutôt que de s'ignorer l'un l'autre et de faire comme si un autre éditeur français n'éditait pas des titres du même mangaka ou en l'occurrence de la même mangaka, les deux maisons d'édition ont décidé de faire de la pub pour le titre de l'autre maison d'édition. Donc, quand on achetait le premier tome de Tokyo Taraba Girls, il y avait de la pub pour Akata et inversement, quand on achetait Trait pour Trait ou dans la communication de Akata, il y avait de la pub pour le Lézard Noir. Je trouvais en fait cette communication plutôt positive où il s'agit vraiment de faire connaître l'autrice au public francophone plutôt que d'avoir des logiques strictement commerciales et concurrentielles où on parle pas des autres, quoi.
C'est vrai, puisque ce genre de plan marketing se fait souvent entre une plateforme d'animation et un éditeur de manga, mais là, deux éditeurs de manga qui se font de l'autopromotion, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans le passé, ou alors ce sont des cas très rares. Pour continuer sur ce capital sympathie, aussi, il est très disponible. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il suffit de lui poser une question, il prend le temps de répondre. Et ça, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on n'a pas un message tout formaté de « on va faire remonter l'information » ou « on ne sait pas ». Des choses qui... Voilà, parce qu'on voit que c'est un community manager qui n'a pas...
qui n'a pas du tout l'information.
Et lui, c'est lui qui répond, il prend le temps de répondre. Et même sur Angoulême, où j'ai eu trois fois l'occasion de le voir durant différentes années, à chaque fois, il a toujours pris le temps de discuter pendant un quart d'heure, une demi-heure, avec justement les gens, avec moi personnellement, mais avec d'autres personnes. Et c'est très agréable parce qu'il est, il est ouvert et disponible.
Moi, je me demande un truc. Il y a effectivement ce capital sympathie qui est associé à cette maison d'édition. Et est-ce que c'est pas aussi ce capital sympathie qui fait que parfois, on pardonne au Lézard Noir plus de choses qu'on pardonnerait peut-être pas à d'autres éditeurs? Je pense par exemple au prix des livres, je pense aussi à la qualité de fabrication des livres, parce que les hardcovers, ils sont pas toujours top, ils résistent pas toujours très bien au temps, et on n'a pas, j'ai l'impression, de critiques aussi négatives quand il s'agit du Lézard Noir que quand il s'agirait d'un très gros éditeur, par exemple.
Totalement, on va lui pardonner plein de petits détails comme ça, parce qu'en fait, ça fait partie de l'ADN des Lézard Noir. Typiquement, tu parlais du prix, qui sont un peu plus élevés, mais ils proposent un format un peu plus grand, donc du coup, l'un dans l'autre, on se dit, bon, ben, ça passe. Mais même au niveau de la communication, on voit que son planning, il est totalement aléatoire. Il annonce des dates un peu au dernier moment. Des fois, c'est disponible bien avant sur son store et ce n'est pas disponible encore en librairie. Donc, on se dit, mais comment ça se fait que des gens l'ont déjà reçu alors que moi, j'attends qu'il sorte.
Des fois, il y a quand même une sorte de communication un peu sporadique parce qu'on a souvent des annonces de titres par le biais d'une réponse à un tweet. Et si tu ne vois pas la réponse qu'il a tweeté à ce moment-là, bah, et parfois, c'est des infos hyper majeures. Genre, il y a un très gros titre qui est annoncé. Ah, au fait, je vais sortir ça, ouais.
Ou même l'exemple d'aujourd'hui même, où le Vagabond de Tokyo numéro 6 est annoncé à travers la réponse d'un tweet.
Au détour d'une réponse. Ouais, ouais, c'est ça.
Personnellement, je trouve que ces hardcovers vieillissent très mal aussi. Je pense qu'il faut le relever.
Moi, je trouve aussi.
J'ai la plupart des coins du dos de mes hardcovers qui sont mais défoncés. J'en ai certains, les pages ne tiennent plus. Genre le Violence in Space qui est sorti en 2020 de Shinobu Kaze, moi, j'ai des pages qui ne tiennent plus.
Ouais, je pense que c'est un petit peu l'angle mort éditorial jusqu'à maintenant, parce que si on regarde, il y a ce format qui existe depuis longtemps, ce format moyen, soit en couverture souple, soit en hardcover, qui a jamais vraiment été reconsidéré, non ? C'est tout le temps la même qualité d'édition depuis plus de 10 ans, et j'ai l'impression qu'il y a...
Il y a une routine, là.
Ouais, c'est ça. Il y a un focus qui est fait sur la qualité du catalogue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un focus sur de se dire, est-ce qu'on peut améliorer l'objet physique.
Surtout qu'il se bloque lui-même au niveau des possibilités, parce que aujourd'hui, dès que tu dépasses 400 volumes dans son format, c'est compliqué à lire, ça devient des gros blocs. On le voit avec Je suis Shingo, ça commence à devenir un peu rigide à la lecture. Comment il va faire avec des titres qui font 600 pages, qui ne pourra pas découper ou qui, éditorialement, seront compliqués à découper pour la vente?
Justement, c'est le cas de Fortine, de Humez. Moi, je lui ai demandé si un jour il la publierait. Et donc, le choix, c'est soit de la publier au format Bunko, donc 20 volumes, chose qu'il n'a jamais fait, encore aujourd'hui.
Il ne faut pas qu'il fasse.
Soit les 4 volumes qui regroupent les 20 volumes. Sauf que les 4 volumes, c'est 4 pavés qui font entre 1200 et 1500 pages. Et donc... ça, bah moi, il m'avait dit à l'époque que ça, il pouvait pas le faire non plus, parce que ça rentre pas dans ses éditions, en fait.
Pour représenter, pour ceux qui voient pas la taille, c'est un Golgo 13, c'est un Kamuden, c'est un Sabuichi, ce sont les nouvelles compilations de Kamimura, si je me trompe pas, genre les Snowblood en plus petit, mais ce sont des gros pavés comme ça.
Ce que tu viens de citer, ce sont des ouvrages qui existent, donc on peut le faire, et honnêtement, les Kamuden, ça va, tu les lis, c'est pas désagréable de les lire sous ce format-là, c'est un ouvrage qui s'ouvre bien, et tu peux tout à fait sortir des ouvrages comme ça avec une très forte pagination, mais effectivement ça demande de revoir un petit peu la fabrication du produit et une logique de production qui est certes différente, et c'est ça qui jusqu'ici n'a pas encore été fait par le Lézard Noir.
Ouais, il a besoin de se révolutionner de ce côté-là, parce qu'à terme, ces éditions risquent de mal vieillir, et surtout, j'ai l'impression que le modèle d'impression n'a pas changé depuis des années, sauf que tout évolue dans l'industrie, et il a besoin de se mettre à la page.
Très bien, merci les gars. Et alors, la suite, comment vous voyez la suite de cet éditeur ?
Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, moi je perçois que peut y avoir l'arrivée d'une certaine concurrence qui va se mettre en place, notamment je pense à Noévé, qui va peut-être devenir un rival sur le long terme au niveau des licences type Modern Girl. On peut déjà voir dans le catalogue de Noévé qu'il y a quelques titres qui s'adressent à des femmes un peu plus adultes. Je pense notamment, on a eu Kageki Shoujo, il y a eu A Tale's Tale, on a eu aussi, là très récemment, Mobuko no Koi, et dans une certaine mesure, il y a aussi Don't Call It Mystery de Yumi Tamura. Ça montre quand même une certaine volonté de publier cette alternative de manga qui existe au Japon.
En fait, un message à faire passer au Lézard Noir, de faire des cartes à collectionner comme Noévé, c'est ça ?
C'est ça que tu veux, ouais.
Non, parce que si c'est pas une carte Noévé, ça m'intéresse pas.
Voilà. D'accord.
Peut-être en concurrence, c'est pas encore confirmé, mais on voit qu'Akata est revenu avec Akiko Agashimura, avec Trait pour Trait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté, peut-être, de surfer un peu, ou du moins s'inspirer de ces autrices derrière, sachant qu'ils l'ont toujours fait, hein, mais ils avaient mis de côté totalement cette autrice. Là, aujourd'hui, ils reviennent. Est-ce qu'ils n'auraient pas cette volonté d'essayer d'aller sur les mêmes plates-bandes, en gros, que le Lézard Noir, dans leur évolution future, voire peut-être des évolutions vers le patrimoine ou des choses comme ça? Pour l'instant, on ne sait pas, mais ça peut être une possibilité.
Est-ce que vous voyez le Lézard Noir, pas forcément revenir, mais poursuivre l'identité historique, par exemple, développer des titres horrifiques ou développer des titres plus vintage?
Moi, j'ai un souhait. Si le Lézard Noir nous écoute, J'aimerais qu'il jette un œil du côté de Kanako Inuki, qui est considérée comme la reine de l'horreur au Japon, et qui est une héritière de Umeze. Ça se voit au trait, en fait. Et je pense que c'est un manque énorme qu'on a en France. On l'a rencontrée il y a quelques années grâce à Delcourt Akata, avec l'étrange petite Tatari et la femme défigurée. On n'a jamais plus rien eu après.
Non, et d'autant plus que c'est une autrice qui va revenir cette année en version anglaise, avec une anthologie. Moi, je sais pas, je peux pas croire qu'elle débarque cet été 2022 avec une anthologie aux États-Unis et qu'en France il n'y ait rien qui soit prévu. J'ai l'impression qu'elle va quand même arriver, non ? Que ce soit chez Le Lézard Noir ou ailleurs. On ne sait pas. Écoute, alors, puisqu'on est dans les recommandations, moi j'en rajoute une couche après le Flash 1 sur Octopus Girl de Toru Yamazaki. Je pense que c'est un vrai manque de ne pas avoir ça en France, surtout pour l'éditeur du Lézard Noir, comme c'est une œuvre Octopus Girl qui s'inspire directement de Kazuo Umeze en 3 volumes.
D'ailleurs, non, mais c'est bien que tu parles du Flash, parce qu'on n'a pas parlé justement dans le Flash, mais moi je trouve qu'on a un énorme manque en France aujourd'hui, c'est Moro Oshii. Je ne comprends pas pourquoi Moro Oshii n'est pas disponible en France, et c'est pareil, je pense que c'est qu'il serait bien chez Lézard Noir.
Ah, totalement, surtout qu'il a une fanbase et que depuis quelques années lire du Lézard Noir c'est cool quand même, c'est se différencier du lecteur classique qui se contente de lire du mainstream. Donc il y a un vrai public qui serait peut-être prêt à tenter juste parce que c'est du Lézard Noir.
Oui, oui, il y a clairement un capital symbolique autour du Lézard Noir où en fait on suit l'éditeur, ou parfois, moi ça a été mon cas, hein, des fois j'achète des titres, je dis bon, c'est édité par le Lézard Noir, je vais essayer quoi. Et je le ferai pas si c'est dès le court en cam, tu vois.
Exactement. Moi il y aurait 2 souhaits que j'aurais. Ça serait de revenir un peu sur le côté sulfureux. J'aimerais beaucoup avoir du Fukushima Masami. Hein, je pense que Max, ça lui ferait plaisir.
Ah, ouais, j'aimerais tellement. Alors, je sais que The Rapist Monk, c'est un peu compliqué parce que bah, justement, c'est encore 4 pavés de 1500 pages. Mais pourquoi pas au moins Saint Muscle.
Voilà. Un peu de sulfureux, en fait. Ça, moi, ça me ferait bien plaisir. Et le dernier truc que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est qu'il reprenne ses communications en story sur le vin et le terroir, puisque depuis quelques années, il a arrêté. J'appréciais beaucoup ses petites stories champêtres.
C'est vrai que ça fait aussi partie de l'identité de Lézard Noir. C'est les stories sur Instagram où on mange de la bonne barbaque et on boit du bon vin.
C'est juste... la cantine de minuit.
Ouais. Très bien, alors sur ces propositions éditoriales adressées au Lézard Noir, je vous propose de conclure cet épisode. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poursuivre la discussion sur le Lézard Noir, est-ce qu'on a manqué des titres ? Est-ce que vous avez envie de réagir à certaines choses que nous avons dites ? Venez sur notre Discord où ça parle pas mal. Ça parle de plus en plus. On sait qu'il y a beaucoup de lecteurs du Lézard Noir sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord Bunko, la capsule manga.
D'accord, focus.
Lézard Noir.
Bon, maintenant c'est à moi de prendre la main. On va un peu se détendre. Je sais que ça vous manquait. Je suis sûr que ça manquait aussi à nos auditeurs. C'est le jeu. Alors, saison 2 oblige. Le jeu, il change un peu. Donc je vais plus vous lire des critiques souvent de mauvaise foi. Maintenant, comme j'avais expliqué d'ailleurs dans le bilan de Noël, je vais vous donner des mauvais résumés. Donc ça va être mal résumé. Et vous ? Il faut que vous trouviez le titre, d'accord ? Saison 2 oblige aussi, les compteurs sont remis à 0.
D'accord.
Et je vois déjà le visage de Julien, je veux rien savoir.
Même temps, vu comment ça a été compté à la fin...
Voilà.
Ah, tu veux dire, tout était fait pour que tu gagnes ?
Tout était fait. Oh putain, mauvais joueur, quoi. Ok.
Non, non, le mauvais joueur, c'est toi qui demande des demi-points à chaque fois que tu ne trouves pas tes Zuka.
Je suis pas au courant.
J'ai 3 mauvais résumés à trouver aujourd'hui.
Ok.
Je vais vous donner le premier, donc qui nous vient de l'utilisateur Omelette de Dino, qui écrit ce mauvais résumé. C'est des types de la NASA qui se font bolosser par des cafards.
Terraformars.
Bravo. C'est
parce
ça.
Parce que j'ai lu le début et après j'ai feuilleté parce que c'était plus possible. Mais surtout, j'ai vu le film live. Et le film live, il déchire.
Ok, alors moi je vais perdre cette année, parce que si c'est des mauvais mangas, j'ai pas lu un.
Ah, c'est pas des mauvais mangas, c'est des mauvais résumés. Après Terraformars, je sais pas, j'ai lu que les 2 premiers tomes, personnellement.
Mais t'as lu le plus intéressant du manga. Mm. Et le film a été fait par Takashi Miike.
Ok, 2e manga mal résumé. Alors celui-là, j'espère que vous allez être rapide. Hein. Tenez-vous prêts. Par l'utilisateur Driss, c'est l'histoire d'un intello sans amis qui écrit le nom des personnes qu'il aime pas dans son journal intime.
Death Note.
C'est Death Note.
T'as dit qu'il fallait être rapide, hein.
Ouais.
Ah ouais, mais Pedro, là, par contre, il s'endort. Là.
Ah, bah, je l'avais, mais il était plus rapide que moi. J'ai rien à dire.
Ok. Et donc, le dernier.
T'es sûr qu'il n'y a pas un lag de 10 secondes avec la Suisse ? C'est bon ?
Non, là, je pense pas.
Non, non, je pose la question, on sait jamais. Je voudrais pas qu'on m'accuse de tricher, tu vois.
Non, non, je suis pas comme ça.
Ok. Le dernier, c'est un orphelin qui se dit que le seul moyen de se faire respecter par les bourges droitards de son patelin est de devenir un maire de gauche.
Un maire ?
Ouais.
Tu peux répéter ?
C'est Naruto ?
C'est un orphelin. Oh. C'est Naruto, exactement. C'est Naruto.
Ouais, ok.
C'était okay, pas mal. Okay, effectivement. Bravo. Je m'incline.
Bravo, bravo, putain.
Ouais, c'est ça, c'est un maire, c'est un Hokage.
Là, j'avais pas fait le lien. Très, très mal résumé, effectivement.
Très bien. Donc, 2 pour Julien, 1 pour Pedro, pour commencer cette nouvelle édition. Bravo, merci à vous en tout cas.
Merci pour le jeu. Voilà, nous arrivons au terme de ce focus spécial Lézard Noir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de nous faire connaître, c'est votre bouche à oreille. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Bunko. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
Bye bye.
Au revoir. Et des bisous.
Focus.
Très bon ça.
Stéphane Duval. Stéphane. Oh Stéphane. On t'aime Stéphane. Stéphane. Stéphane où ?
On peut arrêter là. L'enregistrement.
Bon, allez, stop.
J'appuie sur carré. Hein.